les conférences de la grenouille. À écouter sur le 88.8. Chaque samedi à 10h.
Dans l'univers Yanesha, une ethnie de Haute-Amazonie péruvienne, pas un jour ne se passe sans que les plantes médicinales ne jouent un rôle primordial. Ces plantes, celles qui interagissent avec l'être humain, sont le fondement de la construction de l'humanité et de la personne dans ce groupe. Ce pouvoir particulier proviendrait de temps mythiques où ces plantes partageaient la même essence d'être que les humains. Voilà ce que nous racontent Céline Valado et Geneviève Bourdi, toutes deux chercheurs, dans leur livre « Le corps de l'homme, l'esprit de la plante, soigné chez les Yanesha en Haute-Amazonie péruvienne ». Elles étaient sur l'invitation de l'IRD, Institut de Recherche pour le Développement, à la bibliothèque de l'Alcazar, le mois dernier. Je vous laisse en leur compagnie.
Les Yanesha, c'est un peuple ancré dans la forêt, dans ce piémont amazonien, qui compte environ 8500 personnes, organisées en à peu près 30 villages, des petits villages de 200 personnes et des villages, des plus petits villages, même plutôt 100 personnes, et puis des plus gros villages qui sont plutôt de, je dirais, 600 personnes au maximum, avec une organisation politique, bien sûr, qui se compose de 3 fédérations, qui regroupent tous ces villages. Donc les Yanesha sont sur ce territoire péruvien, ont été un petit peu emprunt de différentes incursions. Donc pour faire une brève historique, sur le territoire Yanesha, il y a eu donc les incursions espagnoles, comme vous le savez, qui s'est terminée par un soulèvement d'Atahualpa, mais qui a également eu des conséquences et des reprises par Pizarro, donc en 1846. Ensuite, il y a eu des incursions militaires également par le gouvernement péruvien. Puis plus tard, il y a également eu des colons austro-allemands qui sont venus s'installer dans cette zone et qui ont eu une influence assez importante, puisqu'en fait, ça a ponctué le déplacement du peuple Yanesha vers les basses terres de l'Amazonie péruvienne, en se délocalisant. C'était un peuple qui était beaucoup plus haut, qui était beaucoup plus andin, disons, et qui s'est vraiment délocalisé en prenant du coup en incorporant plus de composantes amazoniennes dans sa société. Après ces incursions austro-allemandes, est venue la guerre interne au Pérou et le mouvement MRTA, donc le mouvement révolutionnaire Tupac Amaru, est venu s'installer dans cette zone, la prenant un peu comme zone de repli. Alors entre toutes ces incursions historiques, il y a eu des moments de calme qui a permis aux Yanesha de reconstruire ses mythes, d'en construire d'autres, mais de se recentrer plus en fait sur lui-même. Et toutes ces incursions, c'est également des moments où en fait il y a eu énormément d'interactions entre les différents groupes sociaux qui étaient dans cette zone. Donc je vais vous partager maintenant quelques journées de terrain. Donc voici une maison traditionnelle Yanesha à San Pedro de Pichanas, qui est l'endroit où nous sommes arrivés en premier. Et c'est l'entrée du village. Le piémont amazonien, c'est donc très vallonné. C'est l'Amazonie, mais c'est quand même assez haut en altitude, puisque ça peut monter à 1800 mètres d'altitude. Donc voici quelques photos des différents plateaux écologiques qui concentre une très grande biodiversité et qui était très intéressante dans notre sujet, puisqu'en fait il s'agissait de comprendre comment fonctionnait le système de santé, donc l'usage des plantes dans cet univers où la biodiversité était énorme, et donc de quelle manière les Yanesha qui vivaient là depuis 2000 ou 3000 ans avaient constitué un savoir empirique à partir de toute cette diversité de plantes. Comment arriver à une plante quand on est face à des milliers de plantes. Donc l'entrée dans le piémont amazonien se fait par une petite route qui commence à l'entrée des parcs nationaux de Yanachaga-Chimilian et de San Matias, et qui descend vers l'Amazonie basse progressivement. Donc on passe de 1800 mètres d'altitude, comme je vous disais, vers plutôt 300 mètres d'altitude. Et tout au long de cette route, qui longe aussi un fleuve, se situent des villages qui sont quand même espacés, mais qui se sont regroupés un peu sur ces voies d'accès finalement vers l'Amazonie basse. En termes d'organisation, le village d'Azulis, que je prendrai comme village de référence, puisque finalement c'est un village qui fait partie de la communauté de San Pedro de Fichanas, donc il faut savoir qu'en fait, les communautés Yanesha sont regroupées, généralement 3-4 villages forment une communauté. Et donc le village d'Azulis fait partie de la communauté de San Pedro de Fichanas, que je vous présentais tout à l'heure. La maison communale dans les villages, c'est l'espace principal où se situent les décisions politiques, où se regroupent les gens, où se font les fêtes, où se font certains rituels bien particuliers qui ont une consonance justement communale, sociale au sens élargi, puisqu'ils demandent l'invitation de d'autres personnes des villages avoisinants. Et autour de cette maison communale, il y a d'autres petites maisons qui constituent donc un tout petit bourg. Et donc ça, c'est un petit peu le centre nucléaire, disons, d'un village. Et après, des maisons se situent de manière un petit peu éparse dans les abatis ou plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a eu la loi de 1970 où les villages yanéchés ont pu être déclarés comme existants aux yeux de l'État, en fait, chaque famille a eu l'attribution d'une trentaine d'hectares, donc ils ont eu la possibilité d'avoir des titres territoriaux, et il y a certaines personnes qui ont préféré du coup vivre dans leur parcelle, disons. Et dans ces parcelles s'organisent des abatis, et puis il y a également donc autour des abatis la forêt, et généralement on est jamais très loin d'une rivière. Alors ici c'est le fleuve Palcassou qui est quand même assez grand, mais plus on remonte, plus les rivières sont étriquées et plus petites. Mais il s'agit quand même de zones d'activité où il y a la possibilité de trouver des ressources. Donc en termes de ressources, l'agriculture dans les abatis, les rivières qui sont une activité importante, puisque les Yanesha pêchent beaucoup, alors des pêches collectives ou des pêches individuelles. Dans la forêt, la chasse, il y a différentes techniques de chasse. Je pense qu'aujourd'hui, les pièges et les fusils sont les plus utilisés. Puis aussi des collectes, donc des fruits, des insectes. À côté de cela, il y a des activités de ressources économiques, puisqu'il y a des communautés qui font du café, donc en quantité relativement importante. Le cacao est aussi rentré dans le système de production, ainsi que le roucou depuis quelques années. En organisation, l'organisation politique et sociale, donc je reviendrai un petit peu sur les années, je dirais 70-80, où existait encore le dernier leader politique et spirituel, Yanesha, qui aujourd'hui est décédé. Et c'était une personne qui avait la capacité d'entrer en connexion avec les différentes divinités et déités que considèrent les Yanesha et qui peuvent apporter des réponses sociales aux problématiques qui se posent. Donc sociales, j'élargis également à la maladie, en cas d'épidémie par exemple. Cette personne résidait dans une maison qui était ronde, comme ici, et en fait, là, il pouvait rentrer en diète, comme on dit, et il avait des visions, il entendait des chansons, et selon sa capacité à les répéter, il pouvait ensuite exprimer aux autres quelle voie il devait suivre. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de guide spirituel. Le guide spirituel est devenu un leader politique qui est donc à la tête de la principale fédération Yanesha. Alors je dis que ce leader spirituel est devenu un leader politique parce qu'en fait on utilise la même terminologie. Le leader spirituel était nommé Kornesha. Aujourd'hui, le leader politique se nomme Kornesha. Mais il n'a plus la capacité de rentrer en communication avec ses esprits. C'est plutôt maintenant quelque chose que seul le chaman et personnes assimilées peuvent continuer à faire. En termes sanitaires, il existe donc, comme je vous dis, des personnes qui sont des chamans, des personnes qui sont des végétalistes, c'est-à-dire des personnes qui connaissent très bien le monde végétal. Alors, à la différence du chaman qui a plutôt une connaissance du monde spirituel et de quelques plantes communes, le végétaliste, lui, a vraiment une connaissance ample. Ensuite, il y a une médecine qui est plutôt propre à la famille nucléaire, c'est-à-dire les mères de famille ou les grand-mères qui peuvent avoir des petites recettes. À côté de ce système, disons, traditionnel, on a le système de biomédecine ou de médecine occidentale, donc deux hôpitaux localisés aux extrémités du territoire Yanesha, quelques postes de santé relativement épars et qui ont un rôle d'attention primaire, c'est-à-dire pour des campagnes de vaccination, des campagnes de prévention, des campagnes d'hygiène, des campagnes de cet ordre-là, ou alors des soins qui vont être des accouchements, des soins assez classiques et qui ne nécessitent pas une hospitalisation, mais qui sont quand même... Les Yanesha ont recours aux postes de santé, mais comme ils se trouvent assez éloignés, en fait, ils y vont quand vraiment la nécessité se fait sentir. Maintenant, je voudrais vous parler du végétal. Donc, je ferai une parenthèse sur le point juridique, c'est-à-dire comment est-ce que s'est construit cette recherche et comment est-ce que nous sommes entrés avec un bagage juridique dans les communautés. Donc, tout d'abord, il y a eu des assemblées, des groupes de parole avec différents représentants politiques, des villages, et puis après de la fédération Yanesha, donc la principale qui s'appelle la Fekonaya, ce qui nous a permis d'avoir un permis de collecte pour avoir un accès légal à la biodiversité de cette région. Et on est revenu vers les communautés pour qu'elles réitèrent en fait leur accord par rapport à notre demande. Et ensuite, une fois que nous avons, une fois le travail effectué, en fait, on est revenu vers l'ensemble des gens qui avaient travaillé avec nous afin de valider officiellement l'écrit. C'est-à-dire que il nous paraissait important dans ce travail de restitution d'un savoir oral de pouvoir aussi avoir la validation d'un travail écrit par ces mêmes communautés. Donc voici une journée en forêt. Donc les personnes avec qui nous avons travaillé sont également ce sont des personnes qui connaissent le milieu végétal, mais qui sont spécialistes ou non, finalement. Des végétalistes ont contribué, des chamans y ont contribué, mais également des mères de famille, comme je vous disais, qui ont une certaine connaissance et finalement de la connaissance de tous les jours, des plantes que l'on croise tout le temps et qui sont également importantes dans la fabrication de la personne Yanesha au sens où ils l'entendent eux, mais aussi dans la restauration de la santé quand il y a un problème de maladie. Donc ici, un petit layon qui s'enfonce dans la forêt avec un panel de végétation. Les planches d'herbier donc, ont été fabriquées dès le pied de la plante, qui est en fait une méthodologie utilisée en ethnobotanique qui permet de collecter la plante, de la voir, de la prendre aussi en photo et de demander à la personne qui nous accompagne quel est son usage, comment est-ce qu'on l'utilise, est-ce qu'elle est bouillie, est-ce qu'elle est mangée crue, est-ce qu'elle est appliquée sur la peau, frottée, de quelle manière, donc quel est son usage. Et peut-être aussi des fois il se dégage de la mythologie à ce moment-là, des anecdotes, ma grand-mère utilisait cette plante parce que quelqu'un lui avait dit que, ou avant, dans les temps anciens, cette plante était, par exemple. Une fois la plante récoltée, étiquetée, numérotée, en fait, on a eu accès à l'herbier du Missouri Botanical Garden, qui est un herbier qui se situe à Oxapampa et qui nous a permis de traiter les plantes, c'est-à-dire de leur donner une forme aplatie, de les faire sécher et de les numéroter, de les registrer et d'avoir une trace, en fait, de ce travail. Et il n'a pas été découvert de nouvelles plantes, mais elles ont été toutes déposées à l'herbier national de Lima. Alors, comme je vous disais, le côté mythologique est très important pour les Yanesha. Et j'utiliserai, en fait, pour l'illustrer, des dessins qui ont été faits par un professeur d'école bilingue, Yanesha espagnol, et qui a bien voulu se prêter, en fait, au jeu de dessiner ce que lui connaissait de sa mythologie à travers aussi des petits groupes parfois qu'on a organisés entre différentes personnes pour parler d'un mythe en particulier qui lui donnait une idée dans son imaginaire et qui donc a donné lieu à ses illustrations. Parler de mythologie, c'était un questionnement essentiellement ethnographique, même si l'ethnobotanique également peut relever de ces questionnements. Il y avait une dimension symbolique, comprendre la plante, comprendre l'univers. Une dimension, comprendre la nature, qu'est-ce que les Yanacha entendent par nature? Est-ce qu'ils font partie de la nature? Est-ce qu'ils sont en dehors de la nature? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Et comprendre donc ce que nous cherchions, comprendre le système nosologique Yanacha, donc le lien entre les hommes, les plantes et les nosologies. Ici, Enrique a fabriqué ses dessins aussi avec les mères des orchidées, c'est-à-dire des plantes qui sont un peu les maîtresses d'autres plantes et qui ont une importance dans la mythologie amazonienne. Donc pour les Yanacha, un petit résumé mythologique, les Yanacha sont nés sur une terre, la deuxième terre, et ils étaient tous de forme humaine à cette époque-là. Et sur cette terre, il n'y avait que des humains, d'ailleurs. Il n'y avait pas de plantes, il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait pas de relief particulier. Il y avait juste des humains qui vivaient en plus ou moins bonne entente, mais voilà. Et un jour a lieu un cataclysme et l'univers s'est divisé en différentes terres qui sont toutes rondes et qui se situent toutes dans un cylindre, en fait. Et ce cylindre héberge aujourd'hui des âmes, des divinités, des ombres. Les Yanacha, eux, l'apparence qu'ils ont, les seuls Yanacha qui sont restés sous l'apparence en fait humain après ce cataclysme, qui est aussi le moment de la spéciation, le moment où des Yanacha sont devenus plantes, des Yanacha sont devenus animaux, insectes, des fois rochers, sont restés sur cette deuxième terre et y vivent encore aujourd'hui. Alors, au niveau des mythes qui retracent l'histoire des plantes et qui retracent l'histoire de ce moment particulier de la spéciation, c'est un moment assez important parce que finalement, il a dirigé des groupes, des plantes dans différents groupes particuliers. Donc, par exemple, certaines plantes proviennent d'humains, donc se sont transformées. D'autres plantes ont été offertes. La différence qu'il y a ici, c'est que des plantes qui viennent d'humains qui pouvaient être des ancêtres particuliers ou des divinités particulières. Par exemple, dans le cas de la coca, cet homme, en fait, était une personne très importante qui aurait pu être assimilée à un cornécha ou tout du moins à une instance bien particulière dans un village, avait une femme qui était très infidèle. Et donc, il a démembré sa femme. Et chaque pièce tombée sur le sol, son sang s'est répandu, en fait, et a donné lieu au petit arbre de coca que nous connaissons aujourd'hui. Dans le cas du palmier du Parepou, c'était le fils d'une personne importante également, qui avait des pouvoirs de transformer les gens en autre chose. Donc, il transformait des gens en rochers, et puis... Et puis ça le faisait rire, il transformait des gens en petits scarabées, et puis ça le faisait rire. Et en fait, il s'est fait, disons, crucifié, on va dire, sur un petit radeau, et le jour suivant a poussé cette plante. Et ici, en fait, d'autres plantes ont été offertes, donc il s'agit essentiellement des souchets, finalement, par des gens qui étaient déjà élevés au rang de divinité, qui n'était pas une personne importante du village, qui avait déjà vraiment ce statut de divinité. Et donc ces plantes-là ont été offertes à des gens, et déjà sous forme de plantes. Mais la caractéristique commune que possèdent toutes ces plantes, c'est qu'à chaque fois qu'elles ont soit été données, soit elles se sont transformées, il y a eu des mots qui ont été dits, « moi je vais servir à » ou « toi tu serviras à » ou « je te donne cette plante pour que tu... » Et donc l'intention fait qu'aujourd'hui, ces plantes ont ces pouvoirs particuliers. Donc l'être Yanacha, une petite parenthèse sur comment se constitue la personne Yanacha, je reviendrai en suivant. Les Yanacha ont un corps, comme nous. Ils ont un principe vital qu'on pourrait aussi nommer esprit. Ce principe vital se situe tout autour du corps. Et il se situe autour du corps, mais à l'intérieur des vêtements. Enfin, il dépasse peu des vêtements finalement. Il est confiné à l'intérieur. Donc les vêtements qui étaient autrefois la tunique traditionnelle, qui est toujours utilisée dans certaines occasions, et ce corps plus ce principe vital projette une ombre par terre que nous voyons. Certaines personnes, comme les chamans, ont un autre principe vital ou un autre esprit en plus, qui est l'esprit chamanique, et qui permet en fait de se transformer en jaguar, par exemple. Donc la fabrication de l'humain, je ferai juste une parenthèse sur la spécificité que possèdent en fait les composantes de la personne, c'est-à-dire l'âme. Elle est un substrat visiblement qu'on ne voit pas, neutre, que l'on ne peut pas toucher, mais qui a quand même des capacités particulières. Elle est douée d'intentionnalité, donc c'est un peu elle qui gère notre conscience. Elle a des propriétés quantitatives et qualitatives, on peut en perdre. Et on peut l'alimenter également par agrégation. Ensuite, on a donc cette ombre, qui est aussi une composante qui peut être douée d'intentionnalité, c'est parfois elle qui nous fait tomber. Mais elle est caractérisée par ce côté un peu mauvais, où toutes les mauvaises pensées, les rancœurs que quelqu'un peut avoir de son vivant sont concentrées en fait dans cette ombre. Et elle est également douée d'un pouvoir mimétique, et Geneviève en parlera à suivre. Alors, ces composantes de la personne, en fait, c'est elles qui vont faire de l'humain ce qu'il est et qui vont être douées de métamorphoses et sur lesquelles les plantes vont agir. Donc si on prend des plantes, c'est parce que petit, quand on est enfant, on en a besoin pour pouvoir devenir adolescent. Et on va reprendre des plantes pour qu'adolescent on puisse devenir adulte. Donc ces plantes en fait vont avoir un rôle d'alimentation, d'esprit différent qui vont s'agréger autour de l'humain pour faire et devenir ce qu'il est. Donc il faut savoir qu'il y a une alimentation en plantes durant toute la vie, mais à des moments précis, on va avoir vraiment l'usage de certaines plantes en particulier. Maintenant, je voudrais parler de la maladie, introduire ces notions, et notamment introduire le fait que la maladie se situe toujours plus ou moins dans le monde invisible, quelque chose que nous ne voyons pas, mais qui existe bel et bien. Et donc, on classifie deux grands groupes. On a comme classification deux grands groupes, les groupes des entités du monde non visible et les mauvaises pensées fondamentales. Jalousie et envie. Dans le monde invisible, on a des personnages. Alors, nous ne les voyons pas, mais par exemple, certaines personnes y ont accès. Donc, les chamans peuvent y avoir accès, par exemple. Les jeunes filles, quand elles sont en rituel de passage, peuvent y avoir accès aussi. Donc, dans ce groupe des entités non visibles, il y en a quatre bien différents. Donc, le groupe des entités qui marchent de jour et qui marchent de nuit sont des entités assez communes. On les trouve un peu partout. Le groupe des entités de passage sont des entités qui sont apparues plutôt à l'époque coloniale, parce qu'en fait, elles représentent un petit peu... Elles sont un peu l'incarnation de la varicelle, de la fièvre jaune, de la rougeole. Ces entités qui marchent le long de la vallée et qui ont pour caractéristique de tuer tout le monde sur leur passage. Ensuite, il existe les pères des animaux, comme je vous parlais de la mère de l'orchidée. On a aussi des pères des animaux, donc le père du sanglier, par exemple. Ils sont tous dirigés par des entités qui s'appellent des Melianochen, qui sont comme des entités tutélaires qui vont gérer un petit peu comment les humains se comportent dans la forêt et qui peuvent éventuellement demander au père d'un animal de tuer un humain si celui-ci a tué trop d'animaux dans cette partie. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les ombres errantes, qui sont finalement l'incarnation de l'ombre quand elle se détache du corps humain, quand la personne meurt, et qui peut devenir pathogène pour les humains. Et ensuite, donc, les mauvaises pensées fondamentales, qui sont des pensées que tout le monde peut avoir, ou alors qui vont être fabriquées par des sorciers. Je fais juste deux, trois petites présentations. Donc, Panté, qui est une entité non visible, lui va marcher le long des fleuves, il va se diriger selon des chemins, parce qu'en fait, il chasse systématiquement certains gibiers, qui sont essentiellement des gibiers humains, en fait. Et on sait qu'il passe par là, parce qu'on trouve des fois, à son passage, des empreintes de tapir qui ont une dimension un peu particulière, qui ne sont pas vraiment adéquates avec celle d'un vrai tapir. Donc du coup, on sait que c'est lui. Onenietz, de la même manière, peut se transformer en chauve-souris. Elle va voler des fois à des périodes de la journée différentes qui ne sont pas adéquates, où elle a une odeur particulière. Et elle vit dans ces endroits de creux de végétaux. À Rothschild, par exemple, également, il va siffler dans son tibia pour faire de la musique. Et en fait, son chant est peut-être un tout petit peu différent de celui d'un échassier, ceux qui vivent, qui se posent en fait sur les rochers au bord des rivières. Et c'est comme ça en fait qu'on sait que c'est lui. Donc toutes ces entités ne sont pas visibles, mais on peut des fois les prévoir. On peut des fois se dire, tiens, c'est attention, c'est dangereux. Donc elles sont là. Je vais laisser la parole maintenant à Geneviève qui va vous parler du fonctionnement, de l'articulation en fait de toutes ces composantes que comporte la médecine Yanesha et donc en tant que médecine chamanique.
Avant de vous livrer un autre angle du système médical Yanesha, afin d'essayer de le décrypter un petit peu, quelle lecture on peut en donner, j'ai envie de vous raconter mon premier contact avec les Yanesha. Donc, je suis arrivée en 2006, en fait, donc, au Pérou, et je cherchais un terrain pour travailler. Et donc, là, j'ai rencontré un ami argentin qui, lui, connaissait d'ailleurs ce monsieur qui est sur cette photo, Augusto. Et on discutait de la nature des travaux à faire. Et donc, cet ami argentin me dit, écoute, moi, je connais une communauté. Ce serait vraiment intéressant si tu pouvais travailler avec eux, parce que vraiment, ils ont une connaissance du monde végétal qui est réellement impressionnante. Donc nous sommes partis ensemble, nous avons fait le chemin que Céline vous a indiqué, donc une journée entière de voiture par des petites routes totalement escarpées, boueuses, etc., pour arriver déjà dans la première communauté de San Pedro de Pichanas, où vit ce monsieur. Donc, nous avons commencé à discuter, en fait, naturellement, ça se fait avec les gens de la communauté qui étaient là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment on pourrait s'organiser, etc. Ce qu'on appelle un peu une assemblée. Donc, au bout d'une heure ou deux heures de discussion ainsi, il y a des gens qui se sont spontanément levés et qui m'ont dit, écoute, si tu veux, on va t'amener nous voir des plantes. Là, on en connaît. Tiens, on va faire un petit tour là, dans la forêt autour du village. Comme ça, tu vas commencer un peu à connaître nos plantes. Donc nous voilà partis, et donc nous quittons le village, alors c'est des hameaux, hein. Donc nous quittons les quelques maisons et on commence à remonter le long de la rivière Azulis pour aller vers la forêt. Et puis à un moment donné, on était plusieurs, il y a quelqu'un du groupe, là, donc il y a des chats qui se baissent dans la rivière, qui se penchent et qui ramassent un petit caillou. En fait, un caillou qui était une espèce de pierre d'argile un peu compressé comme ça, et qui, tout le monde s'arrête, et qui nous fait à tous un signe de croix sur le front, et qui murmure quelques paroles. Donc là, c'était un peu surprenant, je ne comprenais pas trop ce qui se passait, et donc il y a quelqu'un qui m'explique à ce moment-là qu'en fait, ça c'est un signe de protection qui vise à me protéger moi et tout le groupe, parce qu'on m'a dit exactement dans ces termes, donc en espagnol, hein, parce que les Yanesha parlent très bien espagnol, on fait ça parce que les montagnes ici, tu comprends, elles sont très jalouses et elles pourraient te nuire et elles pourraient nous nuire aussi parce qu'elles pourraient s'offusquer du fait qu'il y a un étranger, en l'occurrence moi, qui pénètre leur territoire. Alors là, franchement, bon, j'ai beaucoup travaillé en Amérique du Sud, mais j'étais vraiment stupéfaite parce que j'avais aussi lu beaucoup de choses sur le chamanisme, des sociétés dans lesquelles on considère que tous les éléments de l'univers peuvent interagir les uns sur les autres, mais entendre pour la première fois de ma vie au XXIe siècle qu'il y avait des montagnes qui, du seul fait de leur volonté, n'étaient pas contentes et pouvaient nuire à quelqu'un, c'était réellement surprenant. Donc, vous l'avez compris, la médecine Yanesha s'inscrit donc dans une société qu'on appelle une société chamanique. Et en fait, ce qui caractérise les sociétés chamaniques, déjà, c'est effectivement le fait qu'il y a cette croyance, donc partagée dans toutes les sociétés chamaniques, qu'à l'origine de tous les éléments de l'univers, il y a une identité de substance, Donc cela est très clairement expliqué dans les temps mythologiques. Tous les êtres de l'univers, tous les éléments naturels, les montagnes, etc., les étoiles, les planètes, partagent la même substance. Et c'est le fait que ces éléments partagent cette même substance qui permet la communication et l'interaction entre les différents éléments de cet univers. Dans les sociétés chamaniques aussi, ce qui les caractérise, c'est qu'on va toujours, à un moment donné, faire allusion à un monde qui est un monde invisible, peuplé de ce que nous, avec notre langage, nous appelons des esprits, mais des êtres du monde invisible qui peuvent interagir tout à fait avec les êtres du monde visible. C'est une des constantes dans les sociétés chamaniques, cette importance. Également, ce sont des sociétés qui, à nos yeux, sont très souvent fascinantes parce qu'elles mettent une très grande importance sur tous les phénomènes qui relèvent de l'esprit. Et ensuite, ce sont des sociétés dans lesquelles l'usage rituel de plantes, qu'on appelle des plantes psychoactives ou des plantes hallucinogènes, est commun. Alors, les sociétés amérindiennes appellent ces plantes des plantes maîtresses et les Yanesha, eux, appellent ces plantes des plantes de sagesse. Il faut savoir que chez les Yanesha, il y a beaucoup de plantes qui sont des plantes de sagesse, mais celles qu'ils tiennent en la plus grande estime, c'est le tabac. Donc, dans notre métier d'ethnopharmacologue ou bien d'ethnomédecin ou bien d'anthropologue qui s'intéresse à la médecine, dans notre jargon, quand on essaye de décrypter un système médical, on commence par s'intéresser à ce que l'on appelle le fonctionnement symbolique du corps, qui n'est ni plus ni moins les idées qui sont formulées autour de la physiologie des corps, des individus. Donc, chez les Yanesha, ainsi que Céline l'a mentionné, l'individu, la personne Yanesha, en fait, c'est un être composé tout d'abord d'un corps. Donc le corps, en fait, est considéré ni plus ni moins comme un objet chez les Yanesha. C'est-à-dire que dans le discours médical, il y a très peu d'allusion qui est faite au corps, à son anatomie et à ses organes. Et ce n'est pas par ignorance complète, parce que les Yanesha sont des chasseurs, donc les activités de chasse sont pratiquées de manière très fréquente, et quand on chasse, on tue un animal, on le dépèce et on voit ses organes internes. Mais dans la médecine Yanesha, presque aucune allusion n'est faite au corps en tant que tel, avec ses organes, sauf quand le corps devient siège de douleur ou bien quand le corps, par exemple, est le siège de, par exemple, de sécrétions qui sont considérées comme des sécrétions pathologiques, comme des diarrhées ou des vomissements de sang. Donc le corps est un objet sur lequel très peu de discours est fait d'un point de vue médical. Le socle, par contre, de la médecine chez les Yanesha, c'est le principe vital qu'on appelle aussi l'esprit, que les Yanesha, eux, appellent le Yekamkwen. Donc là, par rapport à l'esprit, il y a une définition qui est beaucoup plus complète et beaucoup plus aboutie. Donc l'esprit est considéré comme un fluide immatériel. L'esprit, donc, est le siège de la conscience de soi. C'est également dans l'esprit qu'est le siège de la conscience des perceptions sensorielles. C'est également dans l'esprit que l'on va trouver les émotions, les sensations. L'esprit est capable d'idéation, de formuler des idées. L'esprit est également le siège des idées. L'esprit est également le siège de certains facteurs mentaux. Et parmi tous les facteurs mentaux, donc par exemple la concentration, la discrimination, l'identification, le facteur mental auquel les Yanesha apportent le plus d'intérêt et le plus d'importance, c'est l'intention, l'intentionnalité, qui est pour eux la grande force agissante à l'œuvre dans tout l'univers. L'esprit possède également, et donc ça va être mis à profit dès qu'on va parler de médecine et de soins, l'esprit donc possède également des propriétés que l'on pourrait appeler des propriétés physiques. L'esprit donc a cette capacité de s'attacher aux objets, en quelque sorte de coller à des objets. Et le fait que l'esprit s'attache aux objets, donc, fait que le corps devient animé, donc le corps est vivant grâce à cet esprit qui lui est attaché. Mais également, c'est la base de la sorcellerie, parce qu'on considère que l'esprit s'attache à un corps, mais va également s'attacher aux objets de la personne, à condition que la personne porte ces objets près d'elle. Donc, par exemple, un collier, ici, on dit que l'esprit de la personne va aussi s'attacher au collier de cette personne, et la base de la sorcellerie, c'est ni plus ni moins dérober un objet qui appartient à une personne, donc qui est imprégné de l'esprit de la personne, afin de travailler dessus. Le fait que l'esprit s'attache aussi facilement en fait à des objets est par exemple aussi mis à profit dans les activités de chasse et de pêche des Yanesha. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser des armes ou des hameçons, des objets de chasse ou de pêche, qu'ils vont rendre beaucoup plus efficaces parce qu'ils vont faire en sorte, en frottant des plantes qui ont des vertus hémorragiques, par exemple, de faire en sorte que l'esprit de cette plante, puisque les plantes, elles aussi, ont un esprit, bien entendu, l'esprit de cette plante se colle à l'arme, l'hameçon, le fusil, et va faire en sorte que lorsque l'animal est tué, il est rendu beaucoup plus faible parce que l'esprit de la plante va provoquer chez lui des hémorragies beaucoup plus abondantes. Cette capacité est si puissante selon les Yanesha que, par exemple, on dit que les femmes enceintes ne doivent pas à leur tour elles-mêmes consommer les animaux qui ont été chassés avec ces armes ainsi traitées, sinon elles pourraient souffrir de fausses couches. Ça, c'est donc une des premières propriétés qu'a l'esprit, de s'attacher à son objet, on pourrait dire. La seconde propriété qu'a l'esprit, c'est l'esprit est malléable, donc il peut changer de forme, bien sûr, et il peut aussi augmenter en volume et diminuer en volume. Donc on peut en enlever et on peut en rajouter. Enfin, l'esprit, dernière propriété, est miscible. Il peut se mélanger avec un autre esprit et c'est ce qui sera mis à profit dès lors qu'on va administrer des soins, des remèdes qui sont faits avec les plantes. On va essayer de faire en sorte que les deux esprits, les esprits donc des individus et les esprits des plantes, puissent se mélanger. Un autre élément de l'individu, c'est l'ombre dont Céline a parlé. Donc, il y a une espèce d'ensemble de mauvais sentiments de la personne qui se doivent d'être en général refoulés et non exprimés. Et également la tunique traditionnelle ici. Donc, vous avez une tunique traditionnelle féminine qui est portée à l'occasion des fêtes, à l'occasion d'événements spéciaux, parce que sinon les Yanesha sont habillés comme tout un chacun avec des robes, des shorts et des t-shirts. Et donc la tunique joue aussi un rôle dans ce système médical. En effet, vous voyez que la tunique, en particulier cette tunique féminine, elle est faite d'un coton, qui est d'ailleurs plante cultivée dans les communautés. Le tissage est fait au sein de la communauté. Et elle est colorée par des plantes qui sont des plantes tinctoriales, mais qui sont aussi des plantes médicinales, et en particulier, pour les femmes du moins, des plantes qui ont des propriétés anti-hémorragiques. Et là, quand je parle d'effets anti-hémorragiques, c'est d'effets anti-hémorragiques utérins, donc régulariser les règles, prévenir les fausses couches, etc. Et donc, pour une femme, le fait de mettre cette tunique va faire en sorte que l'esprit de la plante, qui se trouve à la fois matérialisé donc dans la couleur qu'elle donne au coton, va venir se fondre dans l'esprit de la femme et va ainsi avoir un rôle protecteur par rapport à toutes ces maladies féminines qui sont extrêmement craintes et redoutées chez les Yanesha. Dans ce contexte, la santé pour les Yanesha, en fait, elle se décline sous la forme d'une santé physique qui n'est ni plus ni moins la capacité de vaquer à des occupations habituelles sans éprouver de douleurs manifestes, mais aussi et surtout, la santé, c'est une santé mentale, et la santé mentale chez les Yanesha Ils ont une définition très claire et très précise de ce que peut être la santé mentale. C'est tout simplement le fait de nourrir de bonnes pensées, ces bonnes pensées qui permettent une vie sociale, agréable et harmonieuse. Donc les bonnes pensées, ça va être l'altruisme, la générosité, la convivialité, la bienveillance. Par contre, pour les Yanesha, la santé, ce n'est jamais quelque chose qui est fixe, qui est donné et qui vient sans faire d'effort. La santé doit absolument être recherchée. En effet, Céline vous a dit que pour les Yanesha, depuis la naissance jusqu'à la mort, l'individu est perçu comme étant un être en devenir à chaque moment. C'est un être qui change tout le temps. Et donc là, être en bonne santé, c'est pouvoir accompagner ce changement inéluctable qui se produit. Et donc, dans ce sens, les plantes vont être là pour finalement accompagner ce changement et aider l'individu à passer au travers de ce changement, à vivre ce changement tout en étant en bonne santé, de la manière la plus harmonieuse possible. C'est pour ça qu'on parle, quand on parle de la médecine Yanesha, on dit que c'est une médecine adaptative. Donc, on va trouver, par exemple, dans l'enfance, la petite enfance, c'est un moment qui se caractérise par une période de croissance intense, beaucoup de plantes qui sont administrées très régulièrement à l'enfant afin qu'il puisse grandir, donc physiquement, harmonieusement, et également qu'il puisse avoir une croissance psychologique et émotionnelle harmonieuse, en accord avec ses besoins, on va dire, que lui demande son âge. Donc, de manière assez surprenante pour nous, on va trouver beaucoup de plantes qui sont dites, par exemple, procurer obéissance, et que l'on va donc donner aux enfants. On trouve aussi beaucoup de plantes qui permettent, par exemple, d'avoir une excellente mémoire quand les enfants rentrent à l'école, etc., etc. Donc, les plantes sont vraiment là pour accompagner l'individu dans tout son développement. À partir de l'âge adulte, en fait, on va trouver d'autres plantes. On considère évidemment que la période de grande croissance est finie, surtout après la puberté. Puberté qui est présentée comme une transformation totale, une métamorphose de l'être. Mais donc, à l'âge adulte, on va plutôt trouver des plantes qui vont permettre de pallier aux pertes de substances physiologiques que peut produire régulièrement le corps. Donc là, je parle de l'urine, de la sueur, des larmes, du sperme, du lait chez la mère allaitante. Et donc, on considère que ces pertes de substances régulières, en fait, vont entraîner une perte d'esprit, puisque l'esprit s'attache à son objet, donc là, une substance corporelle, et donc il faut absolument pallier à ces pertes et donc régulièrement prendre des plantes pour continuer à avoir un flot d'urine convenable, pour continuer à avoir une excrétion de sueur convenable, etc. Donc là, l'état de santé, en fait, est un état qui se recherche, et c'est un état qui se recherche activement. Chaque individu est responsable de sa propre santé et doit faire l'effort qu'il faut par rapport à ses connaissances, et en général, ce sont des connaissances qui sont partagées par tous pour se maintenir en bonne santé. Cependant, évidemment, aussi attentif soit-on à maintenir sa santé, quelles que soient à certains moments les plantes que l'on peut prendre pour se maintenir donc dans un état de bonne santé physique et mentale, on va dire, la maladie peut survenir qui va mettre à bas tout cela. Donc, ça, c'est également un point donc, qui s'intitule la causalité des maladies, donc quand on décortique un système médical. Et donc, chez les Yanesha, en fait, les maladies sont personnalisées. Elles sont personnalisées et on les assimile. Lorsque les Yanesha utilisent un terme espagnol régional, ils ne disent pas les maladies, ils disent les démons. Los demonios, les démons. Et donc chaque démon, en fait, chaque maladie ainsi personnalisée a un nom. Il en existe beaucoup de ces démons et ils ont pour caractéristique, enfin, chaque démon, en fait, est connu pour avoir des habitudes et des lieux de vie bien particuliers. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a des démons, on sait très bien que ces démons vivent plutôt la nuit. Il y en a d'autres qui préfèrent vivre le jour, être actifs le jour. Il y a ensuite des démons qui préfèrent vivre au sommet des montagnes, là, qui vivent dans les rivières, près de certains lacs, auprès de certains rochers. Il y a une espèce de cartographie spatio-temporelle de la répartition de ces démons qui est très stricte et qui est très bien connue de toutes les personnes. Cependant, autre caractéristique de ces démons, de ces maladies, elles sont considérées comme étant toujours invisibles aux yeux des communs des mortels. Elles sont tout le temps invisibles, soit parce que ce sont déjà des êtres du monde invisible, elles appartiennent au monde invisible, soit parce que même si elles appartiennent au monde visible, elles ne se manifestent pas. Mais par contre, même si elles sont invisibles, on peut suspecter leur présence ou on peut savoir qu'on a été en contact avec un démon parce que quand elles sont dans le monde visible, en général, donc quand elles agressent les personnes, elles vont laisser dans ce monde visible des traces de leur passage. Donc ça va être des traces physiques au sol, des empreintes, ça va être des traces olfactives, certaines odeurs bien particulières, ça peut être aussi des traces liées à des phénomènes météorologiques, comme par exemple des tourbillons soudains dans la forêt, des vents, des branches qui cassent, des petits tourbillons d'air, des manifestations d'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est hautement pathogène puisque c'est la manifestation d'un démon, etc. Donc ça, c'est une des premières choses que l'on peut dire par rapport à ces maladies. La deuxième chose, c'est que la motivation de ces démons, en fait, c'est peu ou prou toujours la même. C'est s'emparer de l'esprit d'une personne. Soit parce que les démons chassent et veulent et se nourrissent des esprits, donc dans ces cas-là, la personne est assimilée à une proie, soit parce que ces démons veulent, en arrachant une partie de l'esprit de la personne, donc il perd une partie de son esprit, garder cet esprit, le séquestrer dans leur endroit où eux-mêmes vivent, pour faire en sorte que la personne décédée viennent essayer de récupérer son esprit et à ce moment-là rencontrent ce même démon et vivent une vie conjugale avec lui. Dans un cas comme dans un autre, en fait, cette agression que les Yanesha appellent un choc, en fait, a pour conséquence, par rapport à la personne elle-même déjà, de laisser dans l'esprit de cette personne qui a été en contact avec l'esprit du démon des traces, en fait, de l'esprit de ce démon. Il y a eu contact, il y a eu mélange de deux esprits, en fait, et l'esprit de la personne, ce qui lui reste comme esprit, en fait, en quelque sorte, on pourrait dire dans nos mots à nous, est contaminé à des traces, donc, de celle du démon, de celle de la maladie. Cela se passe évidemment à un niveau très subtil. Et la grande gagnante de ce contact, en fait, là-dedans, c'est l'ombre. L'ombre qui est donc cet ensemble de mauvais sentiments que normalement tout être en bonne santé doit refouler. Elle va se trouver comme vivifiée de ce contact avec la maladie, au point où les Yanesha disent que par une espèce de mimétisme inconscient, elle devient elle-même la maladie, elle devient elle-même le démon, et donc elle commence à prendre toutes les caractéristiques, les goûts et les dégoûts du démon. Donc la personne va commencer petit à petit elle-même à se comporter comme ce démon et avoir des goûts et des dégoûts qui vont être caractéristiques de ce démon. Par contre, il y a aussi une conséquence, et donc ça c'est une conséquence immédiate et qui joue tout de suite dans l'état de la personne, on va dire, j'allais dire l'état physique, mais bon, dans l'état de la personne, c'est que du fait d'avoir perdu une partie plus ou moins importante de son esprit, elle va se trouver extrêmement faible, puisque l'esprit c'est ce qui finalement anime le corps, soutient le corps. Donc elle va être faible, fatiguée. Elle va avoir envie de dormir, éventuellement elle va avoir un peu de fièvre, elle n'a plus envie de rien. Bon, nous on dirait tout simplement elle est malade. Et donc ces symptômes, éventuellement, elle manifeste une dépression. Donc ces symptômes, en fait, sont plus ou moins exacerbés et cela dépend de la quantité d'esprit qui a été dérobée. Mais à ce stade, en fait, ce que nous appelons, nous, dans les termes de médecine occidentale, le tableau clinique n'est absolument pas caractéristique d'un démon ou d'une maladie en particulier. Les personnes malades, en fait, au début de leur maladie, au début de l'atteinte, quelques jours après, vont toutes manifester le même tableau clinique très peu significatif. Ce qui fait que quand le problème du diagnostic se pose, en fait, le diagnostic, on se trouve face à une double incertitude. D'un côté, le fait que les démons sont totalement invisibles, on n'a absolument pas accès à une connaissance directe d'un démon, donc d'une maladie. D'autre part, le fait que le tableau clinique est réellement, du moins au début, peu caractéristique d'un démon, donc peu caractéristique d'une maladie. Donc, faire un diagnostic dans ces conditions s'avère difficile, mais néanmoins absolument indispensable, parce que dans cet univers et dans ce système médical Yanesha, et ça c'est une caractéristique absolument remarquable de ce système médical, à une maladie, donc un démon bien identifié, correspond une plante et une seule. Donc vous voyez le lien qu'il faut faire, il ne faut pas se tromper, donc il faut vraiment identifier le démon. Donc le diagnostic, à ce moment-là, prend donc l'allure, et c'est comme ça que ça se fait, c'est une anamnèse, c'est-à-dire que c'est une remémoration, un effort de mémoire collectif qui est fait, où la personne qui se dit malade, qui se dit avoir été en contact avec un démon, va en compagnie de ses proches, de sa famille, en compagnie de voisins, voire en compagnie de personnes qui s'y connaissent bien en démons, on va dire, commencer à se remémorer avec eux et lancer des pistes tout ce qu'elle a fait les derniers jours qui ont précédé l'apparition de son malaise. Et donc elle expose à la vue de tous, en fait, ses faits et ses gestes durant les derniers jours. Et donc dans ce sens, en fait, c'est là où la maladie chez les Yanesha prend un caractère totalement social, en fait, et normatif, bien sûr. Une fois donc le démon clairement identifié avec l'aide de tous, la plante est ramassée. Alors en général, la plante porte le nom du démon, il y a une étroite corrélation entre les deux. La plante est ramassée et donc il va y avoir une préparation du remède et une administration du remède, le tout étant fait afin que finalement on puisse libérer l'esprit de la plante et le rendre miscible avec l'esprit de la personne. Donc il existe chez les Yanesha beaucoup de manières de préparer les plantes en remède. Elles sont toujours préparées seules dans un remède. Caractéristiques donc que je vous ai citées tout à l'heure, mais qui méritent vraiment d'être soulignées. C'est tout à fait remarquable dans les systèmes médicaux en règle générale. On prend beaucoup de plantes pour soigner une maladie. Là, c'est l'inverse qui se passe. Donc, il y a plusieurs manières de préparer les plantes. Les Yanesha connaissent vraiment beaucoup de techniques particulières, mais ce qui est le plus souvent utilisé, en fait, c'est ce que vous voyez sur cette photo. C'est un bain de vapeur, en fait, et donc en espagnol régional, ça s'appelle une vaporisation. Alors le bain de vapeur consiste à prendre une marmite, que vous voyez ici, à mettre de l'eau dedans et parallèlement à côté à mettre des pierres résistantes à la chaleur dans le feu, afin de porter au rouge ces pierres, et une fois qu'elles sont réellement brûlantes, on les introduit dans la marmite pleine d'eau, on met la plante qui correspond au démon, à la maladie en question, et à ce moment-là, la vapeur donc va sortir de l'eau elle va entraîner l'esprit de la plante, et donc la personne, donc là, la personne, c'est une femme, je pense, qui est recouverte de sa tunique traditionnelle, elle va s'installer au-dessus de la marmite, et puis elle va faire un petit sauna individuel, tout simplement, et elle va donc pouvoir respirer l'esprit de la plante, se l'approprier en le respirant. Donc il est dit que l'esprit donc, de la plante matérialisé par cette vapeur d'eau donc, qu'il entraîne va pénétrer donc, lors de l'inhalation dans les poumons et va également migrer au travers donc, des poumons vers la peau et sortir sur la peau, donc imbiber, imprégner la peau. Et la preuve en est qu'à ce moment-là, il y a une sueur qui se manifeste. Donc là, la plante, l'esprit de la plante rendu miscible avec l'esprit de la personne malade va agir comme une antidote en fait et va neutraliser toutes les composantes dues à cette imprégnation du démon dans l'esprit de la personne. Cependant, le soin n'est pas complet. On demande encore à la personne de faire afin d'être totalement guérie et donc de redevenir totalement humaine, il faut que la personne agisse consciemment et débarrasse finalement son ombre qui a toujours été donc imbibé de ses caractéristiques, de ce démon au point de s'en être approprié les traits. Et donc soigner l'ombre à ce moment-là revient à demander à la personne donc de suivre ce qu'on appelle en espagnol les diètes, mais c'est tout simplement d'avoir un comportement alimentaire et un comportement physique, en fait, dans ses attitudes de vie bien particuliers, comportement qui devrait être suivi strictement, sinon la personne n'est jamais dit guérie, ce qui veut dire qu'elle reste toujours quelque part avec cette empreinte du démon et reste donc une menace pour les autres membres de la communauté. Donc avant de terminer, je voudrais juste rendre hommage à des plantes et des personnages exceptionnels. Donc ici, c'est un dessin donc, fait par ce professeur Yanesha qui représente le premier chaman qui a été intronisé par le Coati et par donc, un dieu Yanesha. Et le premier chaman donc, qui a la plante chamanique par excellence dans son dos que vous voyez et qui est le tabac. Je voudrais également rendre hommage ici donc, à tous les chamans, ce qu'on appelle aussi au Pérou les végétalistes, les curanderos, ceux qui sont les guérisseurs, ceux qui connaissent les esprits des plantes et qui soignent donc leurs semblables avec. Et puis je voulais bien sûr vous remercier pour votre attention.
Merci à Geneviève Bourdi, pharmacienne et ethnopharmacologue, chargée de recherche à l'IRD, ainsi qu'à Céline Valado, ethnobotaniste et anthropologue, chercheur IFA. Leur ouvrage « Le corps de l'homme, l'esprit de la plante, soigné chez les Yanesha en Haute-Amazonie péruvienne » se trouve aux éditions IRD. Bonne journée à tous sur les ondes de la grenouille.